France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le 46e Festival d'automne à Paris. Ce festival, voué à la création contemporaine interdisciplinaire, réunit des artistes venus des quatre coins du monde. Au programme, plus de 60 propositions artistiques en danse, théâtre, musique, arts plastiques et cinéma, dont deux portraits d'artistes consacrés cette année à Jérôme Bell et à Irvine Arditi et le Quattuor Arditi. Le Festival d'automne à Paris, jusqu'au 31 décembre, dans 47 lieux à Paris et en Ile-de-France. Un partenariat France Culture.
France Culture, il est 8h. Le journal Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous. La droite traditionnelle s'allie avec l'extrême droite pour gouverner en Autriche. Le FPE revient aux affaires à la faveur d'une coalition annoncée hier. Nous irons à Vienne au début de ce journal, puis à Prague, où se tient aujourd'hui une réunion des partis européens, autour en particulier de Marine Le Pen.
C'est une véritable offensive diplomatique lancée par les États-Unis et l'Arabie Saoudite contre l'Iran. Escalade verbale entre Washington et Téhéran, sur fond de guerre au Yémen. Explication à suivre de Nabila Hamel.
En France, tout en bas de l'échelle sociale, les nettoyeurs des gares du nord parisien ont obtenu gain de cause après un mois et demi de grève. Leur salaire et prime de misère leur avaient attiré la sympathie des usagers.
Et tout en haut de l'échelle sociale, le PDG de Renault, Carlos Ghosn, rachète un groupe de presse. Première illustration d'une évolution de l'industrie automobile qui veut produire ses propres contenus médiatiques pour la future voiture autonome.
En fin de journal, nous ferons un détour par Lyon et cette vente aux enchères inédite, un squelette de mammouth laineux, 3,40 m de haut, 5 m d'envergure, est mis en vente pour une valeur estimé à au moins 450 000 euros, Caroline.
Voilà qui rendait sensible notre premier invité, Michel Troigros, et qui manifestement fait sourire notre deuxième invité. Béatrice Gibelin est avec nous, géographe, fondatrice de l'Institut français de géopolitique de Paris 8 et directrice de la revue Hérodote. Nous parlerons avec Béatrice Gibelin de la Conférence nationale des territoires et de ses fractures territoriales en France.
Ils auront mis 2 mois à accorder leur violon. En Autriche, les conservateurs de l'EVP et l'extrême droite du FPE ont abouti à un accord de gouvernement hier. La voie vers la chancellerie est donc dégagée pour le jeune Sébastien Kurz, 31 ans, vainqueur des dernières élections législatives. La chose sera officialisée lundi. Des précisions tout de suite avec notre correspondante à Vienne, Isorias.
Ce n'est pas vraiment une surprise, mais l'annonce est intervenue rapidement. Après seulement 2 mois de négociations, les conservateurs et l'extrême droite ont donc déjà un accord de gouvernement. Les noms des futurs ministres devraient être connus aujourd'hui, une fois que les deux leaders, Sébastien Kurz et Heinz Christian Strache, se seront entretenus avec le président autrichien. Ce dernier a en effet un droit de regard sur la composition du gouvernement. La presse autrichienne évoque déjà certains ministères pour le FPE, l'intérieur ou encore la défense. L'EVP lui obtiendrait le ministère de l'économie ainsi que celui de la justice. Mais rien d'officiel pour le moment. Seule la feuille de route de ce futur gouvernement est connue dans ses grandes lignes. En 2 mois de négociations, les deux parties sont en effet tombées d'accord sur de nombreux points. L'immigration d'abord. Ils souhaitent notamment réduire l'aide financière à laquelle les réfugiés ont droit. La sécurité ensuite. Le FPE et l'EVP veulent créer de nouveaux postes dans la police, mais aussi renforcer la lutte contre le terrorisme. Bref, un gouvernement très à droite s'annonce. Reste à connaître les noms de ceux qui l'incarneront.
Isorias à Vienne pour France Culture. Et voilà qui semble confirmer cette poussée de l'extrême droite constatée toute l'année à travers le continent européen. On ne devrait pas se priver de s'en féliciter aujourd'hui. À Prague, la réunion du mouvement pour l'Europe des nations et des libertés. Marine Le Pen y sera aux côtés d'autres leaders de la droite extrême présents au Parlement européen ou bien qui espèrent y entrer en 2019. Quel poids pèse-t-il aujourd'hui sur le continent et à l'avenir ? Ludovic Piétenu a posé la question au politologue Jean-Yves Camus.
Le Front National et ses alliés sont extrêmement minoritaires au Parlement européen aujourd'hui. Il y a encore un consensus très large autour des groupes social-démocrates, conservateurs et libéraux. Mais pour autant, c'est précisément ce qui donne une fenêtre de tir au parti de la droite populiste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le consensus dans la gestion des affaires européennes est tellement large et les récriminations, il faut bien le dire, contre la gouvernance de l'Union européenne tellement forte dans beaucoup de pays, qu'il y a une possibilité, non pas de devenir majoritaire, ça me paraît impossible en 2019, mais en tout cas d'augmenter le nombre de sièges que ces partis eurosceptiques, ou en tout cas euro-différents, parce qu'ils souhaitent une Europe qui clairement n'est pas sur les fondamentaux de celle d'aujourd'hui, peut-être que ces partis, sans doute, même qu'ils auront une représentation plus forte. Certains n'en sont qu'au début de leur cycle ascensionnel. Hein. C'est le cas notamment en République tchèque, où quand on regarde le score cumulé de toutes les formations populistes eurosceptiques au dernier scrutin, pour le coup, il y a une majorité. Cette Union européenne qu'ils ont plébiscitée à l'époque, parce que pour eux, elle évoquait la liberté d'entreprendre et la liberté de voter, elle est bâtie sur des fondamentaux qui, au fond, ne sont pas les leurs. Et je le fais savoir.
Jean-Yves Camus, que l'on vient d'entendre, et les choses sont plutôt bien faites, puisqu'en studio avec nous ce matin, il y a Béatrice Gibelin. Bonjour.
Bonjour.
Géographe, géopolitologue, directrice de la revue Hérodote. Vous avez publié notamment un livre sur l'extrême droite en Europe. L'Autriche, c'est un peu l'exemple type de cette poussée en Europe dont on parle beaucoup ces derniers temps, avec justement une droite traditionnelle qui, finalement, limite les dégâts aux élections, mais pour gouverner, a besoin de se rapprocher au maximum de l'extrême droite.
Ça fait un moment qu'on a le FPE qui avait percé fortement quand il avait percé la première fois. C'était à la fin des années 80 ou 90. Il y avait eu un tollé de tout le monde qui dit « Comment ? Jamais ! Jamais d'alliance !»
Ça avait L'Union été européenne avait pris des sanctions aussi. On a l'impression qu'aujourd'hui, on imagine mal la même chose.
Ça fait à peine la une des journaux.
Ça veut dire qu'en 10 ans, l'extrême droite en Europe a pris cette place qu'on ne lui conteste plus aujourd'hui.
Alors, comme le disait Jean-Yves Camus, elle n'est pas au pouvoir demain non plus. Il ne faut pas jouer à se faire peur inutilement. Mais ce qui est clair, c'est que déjà en Autriche, on a même des partis socialistes, SPD, qui vont gouverner dans des communes avec l'extrême droite. Ils le font déjà depuis plusieurs années.
Vous dites qu'on ne va pas jouer à se faire peur. En France, par exemple, quand on voit la droite dite traditionnelle, les Républicains avec Laurent Wauquiez qui tendent vers toujours plus à droite, est-ce qu'il n'y a pas un jour où la digue va céder, où l'extrême droite pourra s'allier comme en Autriche ?
Le pari, non, ça je ne pense pas que ce soit le cas. Enfin, le pari de Wauquiez, c'est de récupérer les électeurs de Marine Le Pen qui est en ce moment dans une situation fragile. Elle se remet quand même extrêmement mal de ce fameux débat, même si elle a fait un score qui est le double de celui de son père, il ne faut pas l'oublier, et que les raisons pour lesquelles elle a fait ce score, elles n'ont pas disparu. Mais on a impérativement toujours besoin d'un grand leader. Donc je pense qu'elle est en ce moment, le FN est en ce moment pas au mieux de sa forme. Il y a quelques bonnes nouvelles parfois.
Béatrice Gibelin, merci à vous. On vous retrouve dans la suite des matins du samedi. L'actualité internationale ce matin, c'est aussi la guerre au Yémen qui a fait au moins 50 morts dans les dernières 24 heures. La plupart dans les rangs des rebelles houthis sous les bombes de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Ce conflit au Yémen oublié des médias mais pas des diplomates. Il fournit même depuis deux jours aux Saoudiens et aux Américains la matière à une véritable escalade verbale contre l'Iran. Nabila Hamel.
C'est la première fois que le ton est aussi pressant. Riyad a appelé hier à agir immédiatement contre l'Iran. Les Émirats arabes unis et le Bahreïn tiennent le même discours. Tous accusent l'Iran d'entraîner et de créer des groupes terroristes. La veille, la représentante des États-Unis à l'ONU, qui s'exprimait à partir d'une base militaire, a présenté à la presse des débris de ce qu'elle dit être le missile iranien tiré du territoire yéménite vers un aéroport civil saoudien. Une preuve qui lie, dit Nikki Haley, de manière irréfutable l'Iran aux armes utilisées au Yémen. Pour Téhéran, les États-Unis mettent en avant ces accusations pour détourner l'attention sur leur propre rôle dans la guerre au Yémen. Le chef de la diplomatie iranienne Javad Zarif avait posté lui jeudi sur Twitter la photo de Nikki Haley devant les missiles incriminés, juxtaposée à celle de l'ancien secrétaire d'État Colin Powell, brandissant en 2003 à l'ONU ce que les États-Unis considéraient comme la preuve de la détention d'armes de destruction massive en Irak, en y ajoutant un petit commentaire « Quand j'étais à l'ONU, j'ai assisté à ce spectacle et à ce qu'il a engendré. » La tension monte en tout cas d'un cran et est perceptible dans les discours des uns et des autres. La représentante des États-Unis à l'ONU a d'ailleurs affirmé que son pays va travailler à la mise en place d'une coalition internationale pour repousser l'Iran.
Nabila Hamel.
France Culture 8h09, suite du journal avec la fin d'une grève qui aura duré un mois et demi au nord de Paris. Les gares du réseau de trains de banlieue n'étaient plus nettoyées depuis la mi-novembre. Les salariés du sous-traitant Honnête dénonçaient des salaires et des primes qui confinaient selon eux à l'esclavage. Et donc, après 45 jours de lutte, Camille.
Eh bien, ils ont obtenu gain de cause hier sur quasiment toutes leurs revendications. Le nettoyage des gares va donc reprendre lundi avec le sourire pour ces salariés qu'a rencontré Rémi Brancato.
Dans le petit local qu'ils ont occupé depuis 45 jours en gare de Saint-Denis, l'ambiance est à la fête. Ça va mieux maintenant. On est soulagés.
On est très très contents. On est gagnés.
Awa et Ami ont le sourire. Leur grève a duré. Elle a surtout payé, disent-elles.
On ne savait pas que ça va durer 45 jours. On croyait que ça va durer des semaines ou bien une semaine. Mais honnêtement, ils sont trop têtus. Ils sont trop têtus. C'est pour cela que ça a duré comme ça. On est plus têtus que eux.
Des salariés plus têtus que leur entreprise Honnête H-Régnier qui accepte finalement de les rattacher à la convention collective de la manutention ferroviaire plus avantageuse. Les paniers repas sont augmentés aussi à 4 euros au lieu de 1,90 euros. Depuis début novembre, les soutiens se sont multipliés, rappelle Mahamadou Baradji, l'un des grévistes.
Les populations, ils ont compris notre combat, donc ils nous ont vraiment soutenus. C'était ça notre force en plus.
La caisse de grève a notamment permis de récolter 700 euros pour chaque gréviste environ. Un modèle, estime Anas Kazib du syndicat Sudrail pour Paris Nord.
C'est un combat exemplaire parce que c'est des invisibles devenus visibles. À un moment donné, ils ont montré à tout le monde que lorsque eux ne travaillaient pas, eh ben, la boîte Honnête ne tournait pas.
Le travail devrait donc reprendre lundi avec une prime de rétablissement, 50% du salaire pour chaque agent pour remettre les gares en état.
Quand les voitures deviennent des salons roulants, les constructeurs de voitures se rêvent déjà en patrons de médias.
Oui, c'est l'une des évolutions à venir dans les années qui viennent avec l'arrivée prochaine des voitures autonomes. Renault fait figure de pionnier en France en rachetant, il l'a annoncé cette semaine, une partie du groupe de presse Challenge. L'alliance pourrait surprendre, mais il s'agit bel et bien pour les industriels de l'automobile de mettre la main sur les producteurs de contenu, d'information et de divertissement, Lise Verbeek.
C'est la bataille du contenu qui s'engage car la voiture autonome va libérer du temps de cerveau disponible. L'utilisateur s'y retrouvera alors comme dans son salon ou même dans son bureau. En entrant au capital d'un média, le groupe de presse Challenge, à hauteur de 40%, Renault, qui présente cela comme une première mondiale, va financer le développement du groupe dans le numérique. Une alliance laboratoire qui reste pour le moment encore floue pour produire du contenu spécifique et permettre aux conducteurs de lire ou écouter. Cette prise de capital est aussi l'occasion pour Renault de se positionner dans une future bataille législative que pourrait engendrer la voiture autonome. En cas d'accident, à qui revient la responsabilité? Au constructeur? Au conducteur? Alors avoir un pied dans un média pourrait servir de tribune d'influence pour peser sur les débats.
Et puis Lise, Renault, ce n'est pas le seul constructeur automobile à élargir sa palette d'activités.
Et tout cela pour tenter de coiffer au poteau Google ou encore Apple, les GAFA qui ont bien compris l'intérêt du temps libéré pour l'utilisateur, qui pourra donc s'abreuver de vidéos, de musique ou encore d'informations. Tesla, par exemple, est en discussion depuis juin avec Universal ou Sony pour créer sa propre offre de streaming. D'autres ont lancé des projets de contenu audio exclusif et réfléchissent à une très bonne qualité du son dans l'habitacle. Mais il y reste difficile pour les constructeurs de concurrencer les GAFA dans ce domaine. Ils ont déjà trop de chats technologiques à fouetter pour s'attaquer réellement à celui-là, estime Bernard Julien, spécialiste de l'industrie automobile. L'économiste qui rappelle aussi leur mauvaise réputation concernant le GPS et le retard qu'ils ont accumulé dans ce domaine. Aux États-Unis, Ford par exemple a bien compris et s'est associé avec Amazon pour intégrer dans ses voitures Alexa, l'assistant vocal intelligent qui permet entre autres aux conducteurs d'écouter des livres audio ou encore de commander des livres sur Amazon depuis son volant.
Un dossier signé Lise Verbeek à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, un climat particulièrement délétère hier au procès pour viol en réunion de Georges Tron. En s'en prenant au journaliste puis au président de la cour, l'avocat de l'ancien ministre Éric Dupond-Moretti a finalement obtenu le renvoi du procès. Le ténor du barreau accusé par ses confrères de la partie adverse de terrorisme judiciaire. Et puis on va refermer ce journal une fois n'est pas coutume sur France Culture avec une idée déco plus sérieusement à faire à saisir. Une maison de vente lyonnaise met aujourd'hui aux enchères un squelette de mammouth sibérien, vieux de plus de 12 000 ans et aux mensurations presque aussi impressionnantes que son prix, Christophe Vincent.
Combien coûte un mammouth? Tout dépend de son état. Ce primigenius, un mâle adulte herbivore, exposé dans l'ancienne gare des Brotteaux, est quasi complet, défense comprise. Son séjour d'au moins 12 000 ans dans le permafrost sibérien explique sa bonne conservation. Pour Eric Mikeler, expert en histoire naturelle, c'est une pièce rare.
C'est un spécimen exceptionnel déjà par sa taille, sa dimension est gigantesque. C'est un spécimen qui fait plus de 5,30 m, 5,40 m de longueur, environ 3,40 m de hauteur. Des défenses qui font, comme vous pouvez le voir là, environ 3 m de long en développé, 160 kg pour les deux, de l'ivoire bien sûr, brut. Le collectionneur en a pris grand soin et même il y a eu une excellente fossilisation sur place, là où il est tombé, où il est mort.
Ce fossile géant intéresse des musées d'histoire naturelle, des grottes, des fondations, des entreprises, pour des raisons d'image ou fiscales, mais aussi des particuliers qui ont des hauts plafonds, comme le vendeur, un châtelain anglais. Un cadeau de Noël original à 450 000 euros.
Et oui, Christophe Vincent, à Lyon, où la vente aux enchères commence à 14h. La météo qui affiche une petite amélioration ce samedi, un temps sec sur l'ouest et le sud. Les derniers nuages pluvieux s'évacuent par le nord-est. Le thermomètre, lui, affichera cet après-midi de 1 à 9 degrés d'est en ouest sur la moitié nord, de 3 à 13 sur la moitié sud.